Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en avril 2010 et c'est l'épisode numéro 32. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on parle Apple, Apple et Apple. Non, je plaisante. On va parler beaucoup d'Apple, pas forcément qu'en bien. On va peut-être avoir quelques critiques, donc si vous êtes allergique, ne partez pas. Il y aura peut-être des choses qui vont vous intéresser. Normalement, on a dans l'épisode, tous les deux épisodes, Jeff et Yann. Mais aujourd'hui, Yann n'a pas pu être là, malheureusement. On pense à lui. Et pour nous prouver, pour lui prouver notre affection, on a invité son ennemi juré, Mathieu Blanco. Comment vas-tu, Mathieu ?
Très bien, et toi ? Bah écoute, je suis prêt. J'ai révisé mes fiches Microsoft. Je suis prêt à le remplacer. On peut y aller. On va parler du Keen. C'est fantastique.
Donc tu adores Microsoft. Tu détestes le cloud et tu aimes les applications.
C'est pas que je déteste, c'est que ça n'existe pas.
D'accord. Et Jeff est là, bien sûr, comme toujours. Il est silencieux et sage dans le fond. Tu vas bien ?
Mais c'est quoi ce révisionniste, le cloud n'existe pas ? Bienvenue à tous au rendez-vous Apple. D'ailleurs, on va l'appeler iPad.
Voilà, alors vous l'aurez compris, on va parler un petit peu de l'iPad et un petit peu d'autres choses aussi. Avant ça, j'aimerais tout de même remercier très chaleureusement les gens qui ont choisi de nous laisser un pourboire sur le site web. Ces gens-là, cette fois-ci, sont Patrick de Strasbourg, qui dit d'ailleurs merci pour tout le travail de recherche. Ben, merci à toi de nous écouter, Patrick, c'est pas moi, hein, je vous promets. Alexandre et Pascal, si vous voulez comme eux nous laisser un pourboire, c'est sur le site, il y a un lien en vert, la couleur de l'argent, sur la droite, le côté de l'argent. C'est peut-être, non ? Ok, c'est pas grave, mon premier beat de la soirée. Alors, donc, comme on vous le disait, on va vous parler Apple, on va aussi vous parler un petit peu des délires de Monsieur Murdoch, qui a dit des choses intéressantes sur Google, de YouTube, de Microsoft, avec une annonce intéressante sur une sorte de téléphone dont on ne sait pas trop bien ce qu'il fait. Et puis, voilà, de quelques petites autres choses en plus. Avant tout, comme vous le savez, la semaine dernière est sorti l'iPad et on en a déjà parlé assez longuement sur le podcast Upload avec Jérôme Kainborg et notre camarade Jeff qui en a un depuis maintenant, depuis sa sortie, donc une petite dizaine de jours. Et donc, si vous voulez vraiment avoir la revue, les impressions complètes sur l'iPad, je vous propose d'aller écouter Upload parce qu'on en a vraiment parlé pendant presque une heure et vous aurez toutes les impressions.
Ta petite vidéo là qui est super bien.
Merci. C'est sûr.
Ah mais j'ai eu plein de retweets ou plein de RT en me disant ah la vidéo est géniale.
Oh bah cool. Ça fait plaisir justement parce que hier j'ai eu la chance et l'insigne honneur de toucher un iPad, moi aussi. En fait, EliseFR sur Twitter a eu la très grande gentillesse de me proposer d'aller voir son iPad. Donc j'ai eu deux petites heures avec la bête et j'ai fait également une des premières impressions en vidéo sur mon blog patrickbeja.com. Vous pouvez aller voir ça, on mettra le lien dans les notes de l'émission. Ce que je vous propose, c'est que on donne chacun nos impressions. On va dire en limitant le temps, puisqu'on en a déjà beaucoup parlé dans Upload, app-load.com. Vous pouvez aller écouter là-bas. Mais je dirais, Jeff, maintenant que tu l'as depuis une dizaine de jours, est-ce que tu pourrais nous dire pendant on va dire, 2 minutes, quelles sont tes impressions après une utilisation un petit peu plus intensive? Et moi, je donnerai mes premières impressions aussi en 2 minutes après. 2 minutes, c'est bon, ça suffira pour qu'on...
Bah non, il me faut tout le show.
On va commencer avec 2 minutes et puis on va voir. Je démarre sur l'Apple que la chatroom peut voir sur l'iPhone. Hop. D'ailleurs, bonjour à la chatroom. Je lance là les 2 minutes.
Donc l'iPad, je l'ai depuis samedi dernier 11h. Le magasin ouvre à 9h. Ce que j'aime beaucoup, c'est ce compromis entre l'ordinateur et le téléphone. Donc c'est super portable, je peux l'emmener partout, je peux faire mon email, je peux browser, je peux tout faire, et je n'ai plus besoin de trimballer mon portable dans les conférences, dans la journée, si je me balade à San Francisco, l'iPad ça suffit. Et je me pose la question, en fait, dans mon prochain voyage, si je vais emmener simplement mon iPad, parce qu'en fait, il remplace de façon très satisfaisante mon ordinateur. Donc pour moi, en tant qu'utilisateur business, c'est franchement un outil qui est très appréciable et qui est quasiment aussi puissant que ce que j'utilise, sauf certaines applications spécifiques sur mon ordinateur. Pour ma chère étendre, ce sera à mon avis l'outil idéal pour deux use cases. Le premier, c'est quand elle va chercher les enfants à l'école et qu'elle les attend, avoir son iPad avec sa connexion 3G, ce sera super pratique. Et puis, il se trouve que cet ordinateur, quand tu le mets à côté de toi dans la cuisine, quand tu prépares à manger, tu veux vérifier tes emails, etc., c'est un truc qui est super pratique. Et donc, je trouve que c'est le truc qui va tuer le netbook est mort, il n'y a plus de netbook, salut. Et je suis complètement conquis, et on n'en a que un pour le moment à la maison, mais on en aura un deuxième quand le 3G sort, et je pense que ma fille, qui a 9 ans, va pas tarder à se l'approprier, parce qu'elle a découvert l'interface à base de touch, qui est vraiment super, super intuitive, et pour elle, utiliser ça pour accéder à YouTube et à tous ces programmes sur le net, c'est impeccable. Donc pour les enfants, ça va également être un hit. Et voilà. Mal.
1 minute 57.
Waouh!
Et je tiens à dire que j'ai effectivement, comme il le disait dans la chatroom, une crampe au bras parce que je tenais l'iPhone en face de la caméra. Ça fait très mal. Mais je note 2 changements, en fait, ou 2 observations, Jeff. Quand on s'en est parlé dans le fameux upload, tu l'emmenais au bureau, en fait, pour la première fois, et tu disais qu'il était très intéressant pour la maison, mais tu n'étais pas certain de pouvoir t'en servir de manière professionnelle. Donc, je comprends que tu as changé d'avis ou que tu as été conquis?
En fait, quand je t'ai parlé au téléphone, Patrick, je ne l'avais pas encore emmené avec moi pour me promener avec mon iPad. Je l'avais simplement mis au bureau. Effectivement, au bureau, en tant que tel, j'en ai pas besoin. Mais quand je suis en balade, genre quand je vais en réunion, je n'ai pas besoin de trimballer mon notebook. Enfin, mon comment on dit notebook?
Portable.
Non, pas mon portable, le truc de papier. Là.
Ah oui, ton calepin, ton
bloc-notes. Merci Mathieu, mon bloc-notes. Et quand je suis en conférence, où typiquement je vais emmener mon Mac, si je sais que je ne vais pas avoir besoin de prendre énormément de notes, c'est très satisfaisant. Et la nouvelle, en fait, si tu veux, depuis la semaine dernière, c'est que je me suis pas mal entraîné sur le clavier à écran tactile, et finalement j'arrive à taper relativement vite, alors que c'était un petit peu difficile au début. Avec un petit peu d'exercice et d'entraînement, ça passe très bien.
D'accord.
Donc je suis conquis, j'adore mon iPad. D'ailleurs, je le mets sur mon cœur, là, voilà. Là, je le tiens, voilà, je lui fais un câlin.
Mais donc, en fait, c'est là où t'as effectivement ton avis, tu as été conquis sur un truc, c'est que tu en as une utilisation professionnelle, ce dont tu doutais au départ. Donc, oui. Pas pour toutes tes utilisations professionnelles, mais il s'insère dans ta vie professionnelle comme dans ta vie personnelle.
Voilà, tout à fait.
Ok, bon, alors... Comme je vous le disais, moi aussi, j'ai eu la chance de toucher un iPad pendant quelques temps. Donc, c'est une expérience beaucoup plus courte que Jeff. Donc, prenez-la pour ce qu'elle est. Mais je vais vous donner aussi en 2 minutes, je vais essayer en tout cas de vous donner mes premières impressions. Allez hop, c'est parti. Ma première, toute première impression, c'était que la machine est quand même vachement lourde. C'est-à-dire que 750 grammes, ça n'a pas l'air de grand-chose, mais il est très fin et relativement dense. Et du coup, on doit le tenir vraiment entre les doigts et le pouce. Et c'est, ça prend un petit peu de disons qu'au bout de 10 minutes, ça finit par devenir inconfortable. Parce qu'il est un petit peu trop lourd, donc je ne me vois pas l'utiliser de manière prolongée avec une main pour le tenir et une main pour taper dessus. Par contre, une fois que je l'ai posé sur le bureau, j'ai eu vraiment une impression de nouveauté, de quelque chose d'intéressant. Et cette impression de Minority Report, d'interface super tactile, a eu un effet assez intéressant sur moi. Et j'ai été beaucoup plus intéressé. J'étais beaucoup plus à l'aise avec la machine. Et la deuxième impression, c'est que l'écran est absolument magnifique. Donc la qualité de l'image est bien meilleure que ce qu'on peut avoir ailleurs. Et la deuxième impression, c'est que la relation qu'on a avec l'appareil est très intime. C'est-à-dire que la réactivité de l'écran est tellement forte que ça te donne une relation immédiate avec la bête. L'autre impression, c'est que le clavier, j'ai été tout de suite à l'aise avec. Donc ça, c'était une surprise, j'étais pas certain, mais j'ai réussi à taper tout de suite. En gros, ma conclusion sur la chose, c'est que passé le hype, le buzz et tout ça, je me dis la machine est intéressante, mais les applications vont vraiment être ce qui va faire qu'il va être un succès ou pas. Donc j'ai un optimisme prudent, mais un optimisme tout de même. Je suis plus 100% certain de l'acheter au moment de sa sortie en France. Disons que je l'achèterai sans doute, mais ça sera peut-être pour les émissions que je fais en partie.
Tic tac, tic tac.
Voilà, c'est fini.
2 minutes tout pile, bravo.
Donc voilà, quand même une bonne impression dans l'ensemble, mais pas une séduction totalement immédiate. Dans mon cas.
Je pense que tu as besoin d'un peu plus de 2 heures pour découvrir en fait comment tu veux utiliser la bête, et tu as une première approche au bout de 2 heures, j'en suis sûr, mais tu vois ton commentaire sur ce sont les applis qui viendront qui feront que ce sera pour moi un truc que j'utiliserai au jour le jour, je pense que tu t'apercevras le jour où tu l'auras que même les applications de base, que ce soit le browsing, que ce soit le mail, c'est franchement des trucs qui sont super utilisables quoi.
Mais alors, est-ce que toi sympas. Est-ce que tu le tiens à une main, toi ?
Ouais.
Et alors, je dois être... Tout le monde me rit au nez.
Haltères.
Non, mais c'est ça, il faut que je fasse des haltères de pouces, quoi. Parce que tout le monde me rit au nez quand je dis 750 grammes, c'est un peu lourd. Mais franchement, au bout de 10 minutes, moi, c'était pas inutilisable, mais c'était un peu pénible, quoi.
Bah, je le tiens, en fait, en support sur l'annulaire et l'auriculaire. Et j'ai 3 doigts en dessous, et après je tape sur une main, ou alors tu utilises le truc qui vient, enfin que Apple vend, donc l'espèce de case qui te permet de surélever l'iPad, et à ce moment-là tu peux taper vraiment super rapidement.
Mais là tu le poses sur le bureau.
Tu le poses sur le bureau, ou ouais. Tu le poses sur tes genoux. Mais c'est vrai que dans un mode où tu le tiens d'une main, il manque en fait une case qui a une espèce de poignée. Et c'est ça, ouais. En fait, j'avais tweeté ça au bout de 2 jours. C'est, je pense que quelqu'un doit développer en fait une.
Oh là,
une
on peut faire confiance à Griffin ou à une marque d'accessoires
tout à fait, ouais.
Pour faire ça. Ouais.
Tout à fait. Ouais.
Mais t'as quand même cette impression que c'est pas super confortable à tenir d'une main, quoi.
Bah, il m'a fallu un peu de temps pour trouver la bonne position, mais tu vois, maintenant, je le tiens de façon confortable. Je t'enverrai une photo avec ouais. La façon dont je tiens, en fait, le truc.
Il faut un mode d'emploi pour le tenir, en fait. oui, Pims2193 dans la chatroom dit « J'ai 3 potes aux US de taille standard qui se plaignent du poids à une main. » Donc, bon, c'est la première fois que j'entends que je suis pas seul dans ce cas. Donc,
c'est des gonzesses, merci.
Bande de danseuses.
Mathieu, toi, t'as eu l'occasion d'en
tenir
un dans ta
main ? Justement, j'aurais dû. Donc, en fait, tu vas avoir l'avis de Jeff qui l'a depuis 10 jours, toi qui l'as tenu 2 heures, et moi qui vais le tenir en main dans 10 jours.
Bah dans 10 jours, il risque de... Bon, il ne sera pas encore tout à fait sorti en France, mais non, il y a des rumeurs selon laquelle Apple annoncerait la sortie de l'iPad en France demain, donc le 13 avril. Et dans tous les cas, on imagine que ça sera autour du 30 avril qu'il sortira en France, puisque Steve Jobs a confirmé que la sortie internationale à la fin du mois était toujours sur les rails.
Bon, bonne donc, chose. Voilà. Mais effectivement, j'attends avec impatience de pouvoir le tester moi-même, mais c'est vrai que je suis intimement persuadé que tout ce qui est tablette et interface tactile C'est ce qui va faire notre quotidien encore plus et encore dans les années qui vont venir et très rapidement.
Bah, il faut dire que la plupart des gens qui ont essayé la machine sont convaincus. Disons qu'il y en a qui sont plus ou moins convaincus de la première version, mais j'ai jamais entendu quelqu'un qui disait les tablettes sont une mode qui va passer. Tout le monde se dit la pire des analyses que les gens ont sur la machine, c'est
C'est une première version.
Bon, ça, on en entend beaucoup parler, mais c'est une première version et d'ici 2 ou 3 ans, tout le monde en aura.
C'est
pas forcément l'iPad, mais effectivement, c'est une technologie d'avenir. Ouais.
C'est le truc tout bête. Hein. C'est l'ordinateur comme on le connaît aujourd'hui. C'est un ordinateur sur un bureau. Ça monopolise une pièce. Ça monopolise une façon de l'apprendre, le système machin. Là, avec ces tablettes, ça va être mobile. Ça va se balader dans la maison. Ça va se balader en extérieur. Ça va répondre à la majorité des tâches que les gens ont de l'informatique aujourd'hui, les mails, le surf, la recherche, pourquoi pas plus tard la visioconférence, mais ça va grosso modo répondre aux plupart des usages, ce qui fait que tu iras que sur un ordinateur vraiment fixe que quand tu auras des choses lourdes à faire. Donc bah, pour moi, ça va vraiment profondément changer. En plus, l'interface tactile, le fait de rendre touchable ce qui est irréel, et donc ne plus avoir une interface comme la souris que tu es obligé de manipuler pour pointer, le fait de pouvoir toucher ce qui est immatériel, c'est la dernière étape. Ouais, c'est du Minority Report et c'est ce que les gens aiment et c'est ce qui permet de comprendre le produit sans manuel.
C'est ce que alors deux choses. D'une part, ce que tu disais à propos d'une nouvelle façon de concevoir l'informatique, c'est exactement ce que je disais dans un article que j'ai posté sur mon blog. Je disais Apple est en train
c'est
de
très égocentrique tout ça.
non mais c'est vrai. Donc ce que je veux dire, c'est qu'on est complètement d'accord.
Ouais. C'est-à-dire
que Apple est en train d'expliquer à l'industrie que un ordinateur n'est pas forcément ce qu'on pense que doit être un ordinateur.
Voilà.
Donc il y a effectivement beaucoup de gens qui font cette analyse, ils redéfinissent l'idée qu'on se fait d'un ordinateur. Et l'autre chose que je tenais à dire avant qu'on passe à d'autres nouvelles Apple, c'est que la chose qui m'a le plus frappé dans cette rencontre avec la machine iPad, c'est à quel point la qualité de la réactivité de l'écran est importante. C'est-à-dire que
C'est le point important qui va faire que tu vas ressentir que ce qui est immatériel est réel. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu as une latence, tu n'y croiras pas, la magie ne va pas opérer.
Et c'est exactement ce que je crains qui arrive avec d'autres constructeurs, c'est-à-dire
ah
que...
Ah bon, mais pourquoi?
on a beaucoup vu ça avec l'iPhone, c'est-à-dire que des copies de l'iPhone avaient un écran tactile, mais la qualité de l'écran n'était pas suffisamment grande pour avoir cette réaction immédiate. Et si c'est la même chose avec une tablette, la fonctionnalité de la machine se désintègre immédiatement. C'est-à-dire que
totalement,
là, on a une réaction sur l'iPad de, je dirais, 0,1 ou 0,2 secondes maximum, même pas, peut-être 0,1 seconde. Et si les autres font ne serait-ce que 0,5 secondes pour voir le résultat de ce qu'on fait sur l'écran à l'écran, ça ne marche plus du tout. C'est complètement terminé immédiatement.
Tu as deux facteurs dans cette magie qui s'opère, c'est donc le type d'écran. C'est vrai que l'iPhone, quand il était sorti, c'était un des premiers produits grand public à avoir un écran capacitif et non pas résistif. C'est résistif, c'est ceux où qui sont mous. Qu'on avait sur les Palm ou sur les Windows Phone, c'était des écrans très peu précis, très peu chers, qu'on retrouvait partout, qu'on retrouve encore même dans le professionnel en ce moment. C'était le premier à avoir un écran, une dalle de verre capacitif qui fonctionnait qu'avec l'électricité statique des doigts, pour résumer. Et c'était le logiciel derrière qui arrivait à faire que la latence entre ce que l'écran intercepte et la réaction du système était tellement faible que tu ne le ressens pas. Tu ne peux pas le voir. Et ce qui fait que tu as vraiment l'impression que ton carnet d'adresse, tu défiles le doigt et tu as l'impression que tu sais que c'est un faux, mais c'est tellement rapide que c'est comme du vrai. C'est ce qui fait que ce qui est immatériel, tu as l'impression de le toucher.
Tout à fait.
Oui, puis le calendrier, l'address book, enfin, l'ensemble des applicatifs iPad par défaut tirent vraiment parti de cette fluidité de manipulation de l'écran qui te donne une expérience absolument extraordinaire.
D'ailleurs, Elise FR, donc la personne qui m'a, Bruno, qui m'a prêté son iPad, enfin, avec qui je l'ai essayé, a dit quelque chose de très marrant. Dans le carnet d'adresse, pardon, dans l'application de prise de notes de l'iPad, il y a une sorte de petit détourage en cuir qui est du plus bel effet à l'image. Et il a dit, moi, ça me paraîtrait pas du tout impossible que Louis Vuitton ou ce type de marque te propose exactement la même chose, mais avec une petite image Louis Vuitton sur le cuir autour. Ils te le vendent plus cher et ça fait classe. Je me dis, franchement, il y a un truc à faire là-dedans.
T'avais une application comme ça qui s'est fait refouler après une semaine ou je sais pas sur l'App Store, elle coûtait 700, elle coûtait 1000$ et puis elle faisait rien, mais c'était juste pour dire je l'ai.
Ouais, exactement. C'est une application qui s'appelait I Am Rich.
Voilà.
Donc je suis riche et qui affichait une sorte de diamant rouge à l'écran et c'est tout. Donc voilà, c'est intéressant.
Voilà.
Autre chose, on parle de l'iPad, évidemment on parle des applications iPad. Une information qui était intéressante, c'est que c'est le pourcentage de développeurs pour applications mobiles, c'est-à-dire quel pourcentage de développeurs développent pour quelle plateforme. Alors en 2009, on avait 78% des développeurs sur iPhone,
18... pour plateforme mobile.
Oui, non. Tout à fait. Plateforme mobile. Donc 78% des développeurs pour plateforme mobile développés pour iPhone, pour Android 18% et pour BlackBerry 4%. Et en 2010, donc les 60 premiers jours de 2010, c'est passé à 67% pour iPhone, donc un petit peu moins qu'en 2009, 10% pour Android, là également un petit peu moins, et 22% pour iPad. C'est-à-dire que la part de l'iPad a bouffé un petit peu sur l'iPhone et un petit peu pour l'Android. Mais l'important, c'est de savoir que la part d'Apple a encore grandi et devient proprement monumentale, puisqu'on est à quasiment 90% de développeurs mobiles qui développent sur un des systèmes d'Apple, que ce soit iPad ou iPhone.
En sachant que c'est les mêmes outils, le même système, les mêmes API, donc la frontière n'existe pas entre les deux. Quasiment.
Donc ça, c'était un petit chiffre comme ça en passant.
Il faut quand même rappeler un chiffre qu'on a appris lors de l'annonce de iPhone OS 4.0, je ne sais pas si on en parlera un peu plus tard, 85 millions d'iPhone et d'iPod. 85 ouais. millions.
Tout à fait.
Puis c'est aussi parlant, si aujourd'hui tu dis « je veux développer pour iPhone ou pour iPad », tu sais très bien qu'il te faut un Mac et qu'il te faut l'outil qui est gratuit, qui est fourni avec ton Mac, qui s'appelle Xcode, et tu développes. Si demain tu te lèves et tu te dis « Ah, je vais développer pour BlackBerry », tu trouves les outils pour développer pour BlackBerry, ça va être un peu plus compliqué.
C'est pas faux.
Tu vois, pareil pour Android un peu moins, parce que t'as tout qui est en open source, mais c'est pas du tout la même intégration, la même facilité, le même écosystème, quoi. Tu retrouves que ce qu'ils font dans l'écosystème très fermé, mais très contrôlé et très propre, pour l'utilisateur, tu le retrouves de l'autre côté de la barrière pour le développeur. Et c'est ce qui fait tout le succès, quoi. C'est ce qui fait que n'importe qui peut se lever un matin et dire « je vais développer une application » et il va le faire, quoi.
Oui, moi, par exemple, je le fais tous les matins.
Tous les matins, en te rasant. Ah non, tu ne te rases pas, donc. C'est peut-être pour ça que tu ne développes pas pour iPhone. Essaye de te raser, tu verras un matin, tu vas te dire « tiens ».
Je suis trop barbu. Alors c'était notre petite partie iPad. On va reparler d'Apple comme le l'imaginait Jeff avec l'annonce de l'iPhone OS 4.0. Mais entre temps, on va faire une petite pause en vous parlant de Rupert Murdoch et de YouTube. Dans les deux cas, Google est attaqué. La première chose donc, c'est Rupert Murdoch qui a fait une annonce un petit peu fracassante, qui a fait beaucoup de bruit sur Internet, en disant, en gros, en faisant une attaque en règle contre Google. Il y avait déjà fait allusion, pour ceux qui ne savent pas, Rupert Murdoch est le propriétaire de News Corp, enfin l'actionnaire principal, j'imagine, de News Corp, qui possède le Wall Street Journal et Fox, le réseau Fox, enfin c'est un empire de médias. Et il dit, en gros, il a donné une interview dans laquelle il a dit Google, enfin comment dire, c'est difficile à expliquer parce que en fait personne n'a compris ce qu'il voulait dire. J'essaie de vous traduire un petit peu. Il a dit alors en fait sur internet il y a Google qui vole le contenu des gens qui ont du contenu parce que ils affichent des pages et si on clique sur les pages de Google notre contenu s'affiche.
Tu sais quoi, donc, ma grand-mère, elle a dit la même chose.
mais ce qui est surprenant, ce qu'on comprend pas, en fait, c'est que Google, effectivement, fait de l'agrégation de contenu sur Internet, mais quand on clique sur une page, sur un lien de Google, ça vous emmène sur le site en question. Il peut y avoir plus ou moins d'étapes en fonction de si on passe par Google News ou d'autres choses, mais Google amène du trafic sur Internet à votre site.
Et là, la Belgique qui avait coupé l'avait bien vu. Hein, ils avaient perdu, je crois, 30, 35%. Un journal belge qui avait demandé à Google d'être retiré après une histoire pareille, bah, ils avaient perdu 30, 35% du trafic de leur
Exactement.
site.
Exactement. Donc, ce qui est difficile à comprendre, c'est que cet homme qui est évidemment, enfin, très certainement très intelligent, ne semble pas prendre en compte le fait que Google amène du trafic à ses propriétés et à ses sociétés. Et le plus terrifiant dans l'histoire, c'est que cet homme qui prend des décisions très importantes n'a pas l'air de comprendre le fonctionnement de base d'Internet. Alors, on ne sait pas très bien si c'est effectivement ce qu'il avait dit ou si on a mal compris ce qu'il a voulu dire ou s'il s'est mal exprimé, mais en l'état, son explication est totalement incompréhensible. Je sais pas si tu l'as entendu, Jeff, si tu as entendu ce qu'il avait dit.
Oui, j'ai pas compris la politique de pricing du Wall Street Journal non plus, parce que j'ai reçu deux offres, une qui est une offre pour mon iPad et une qui est pour un accès online, normal, et je suis censé payer genre deux fois plus cher sur l'iPad, ce qui me semble un peu bizarre. Et donc l'ami Rupert, qui est effectivement très très intelligent, mais qui comprend rien à rien à la technologie, j'avoue que là, il s'est aventuré dans des explications qui sont un peu fumeuses, puisque du genre, et tu cliques sur le lien, et ça ressemble au Wall Street Journal, hein, ça ressemble, ils ont copié, ah ben non, c'est nous.
Ouais, c'est ça. Tu cliques sur le lien, non, tu vas sur le Wall Street Journal. Donc on a presque l'impression que l'impression que donne cette interview absolument terrifiante, c'est que Rupert Murdoch, tu le mets sur un ordinateur, tu lui montres le site du Wall Street Journal, il ne comprendrait pas que c'est le site du Wall Street Journal, il a l'impression que c'est Google qui a volé le contenu du Wall Street Journal. Donc j'imagine pas que c'est ce qu'il pense ou ce qu'il croit, mais ce qu'il a dit dans son interview allait dans ce sens-là, donc on n'a pas compris.
Et tu te rappelles la façon dont les grands patrons d'industrie, bien souvent, quand ils disent des conneries, il n'y a pas grand monde qui veut leur dire, au fait, t'as dit une connerie, là, c'est peut-être pas la peine de continuer. Et c'est peut-être un truc comme ça. Moi, j'ai un de mes copains, donc John Miller, qui était le patron d'AOL, qui est maintenant monsieur Internet, si tu veux, chez News Corp. Et effectivement, le mec, il doit passer des heures à essayer d'expliquer à Rupert ce que ça veut dire d'avoir un écosystème avec Google, etc., qui est un générateur de trafic absolument monstrueux pour l'ensemble de l'écosystème. Et le Gus, il veut pas comprendre, quoi.
Ouais. Effectivement, l'une des analyses que les gens avaient fait, c'était est-ce que Rupert Murdoch, chez News Corp, est en train de ne rien comprendre à Internet et personne n'ose lui dire qu'il ne comprend pas.
C'est surtout en tant qu'actionnaire que ça doit faire peur.
Surtout c'est sûr qu'en tant qu'actionnaire de News Corp, là, il y aurait de quoi se poser des questions, quoi.
Pour peu qu'il te parle de parfait open office, là, c'est fini. Hein.
Référence à certains membres de notre Parlement.
Ancien membre de gouvernement, désormais chez France Télécom. Au poste de la communication.
C'est absolument parfait. Autre attaque en règle contre Google, je ne sais pas si vous avez vu ça, mais les géants de la télécommunication européens ont annoncé qu'ils étaient en train de se préparer à combattre Google, pas Google directement, mais YouTube en tout cas. Pourquoi ? Parce que le trafic de YouTube, selon eux, fait peser un poids et des coûts trop lourds sur leurs infrastructures Internet. Et ils disent, patron de France Télécom, Stéphane Richard, a dit quelque chose d'absolument concernant. Il a dit « Dans le développement de la société digitale, il y a des vainqueurs et des perdants. Et aujourd'hui, il y a un seul vainqueur, c'est Google. Et les perdants, ce sont les fournisseurs de contenu et, dans une certaine mesure, les gestionnaires de réseaux et d'infrastructures. Et nous ne pouvons pas l'accepter. » Alors, c'est doublement concernant parce que, d'une part, c'est un petit peu la politique classique du « il y en a un qui fait de l'argent, moi, j'ai pas réussi à comprendre comment le faire, comment utiliser ce nouvel outil. Donc, on va se dire, on va l'attaquer parce que c'est pas acceptable, il faut que nous aussi, on fasse de l'argent. Mmh. » Et d'autre part, c'est d'autant plus affligeant que « il est gentil, ce monsieur, mais Orange fait beaucoup d'argent. » Donc, ah oui. C'est quand même un petit peu étrange de dire que l'un des sites qui génère le plus de contenu, enfin de trafic sur Internet, donc qui est l'une des raisons pour lesquelles les gens vont sur Internet et payent les abonnements à France Télécom, donc cette société est coupable de faire trop de trafic, quoi. C'est un peu...
Et c'est surtout que France Télécom ou Orange, vu qu'on ne sait pas trop qui est qui, ne veut absolument pas être en position d'être un simple fournisseur de tuyaux. Ils veulent vraiment être le tuyau, être le contenu, être la télécommande, être le portable et facturer tout en checkpoint. Tu passes à la caisse à la moindre action. C'est la politique Orange et France Télécom. Donc effectivement, avoir... une société qui leur pompe, si je me trompe pas les chiffres, c'était 30%, 30, c'était aussi dans l'ordre de 30%, c'est-à-dire 30 ou 40%
du volume
du trafic Orange Europe, c'est YouTube. Ouais. En sachant que les points d'interconnexion leur coûtent une fortune. Et c'est pour ça qu'il y a eu une grande affaire.
Les points d'interconnexion, les points de peering qui coûtent une fortune, oui et non. Parce qu'ils se font des échanges et des accords entre eux et au final.
Voilà. C'est pour ça que ces phrases-là, les phrases sorties comme ça, comme je viens de la lire de Stéphane Richard, ça semble être les phrases publiques. Ouais. Les phrases qui sortent alors que derrière ils sont en train de faire leurs petits accords. Mais c'est vrai que il y a déjà eu, il y a quelques semaines ou quelques mois, des gros soucis, que ce soit avec Orange ou Numéricable. Orange, tu te souviens, ne serait-ce que Jérôme qui se plaignait en disant, moi, sur YouTube, je suis à 5 kilooctets secondes, ça va à la vitesse. Parce que voilà, Orange a dit, tant qu'on n'a pas de solution, on bride le débit.
Oui.
Donc, dans tous les cas, c'est soit l'utilisateur qui va payer, soit l'utilisateur qui va être ralenti dans ses actions. Mais de toute façon, ça, ce sera une guerre. Tant qu'Orange ne sera pas maître de bout en bout, ou aura pas une place importante, ils auront ce genre de comportement.
Faut savoir qu'on a le même problème ici aux États-Unis, puisque là, la semaine dernière, il y a eu une... Donc, le contexte, c'est le suivant. C'est ce qu'on appelle le net neutrality, qui consiste à dire que les...
Donc, la neutralité du net, dont on a déjà parlé ici, ouais.
La neutralité du net, merci Patrick, où les opérateurs sont censés fournir à tous les types de sites, tous les types de contenus, le même accès en termes de bande passante, le même débit, etc. Et donc, Comcast avait pris la même position qu'Orange, qui était de dire, nous, on fait pas de fric sur YouTube, ça nous coûte énormément en termes d'infrastructure réseau, etc. Donc, il faut qu'on trouve une solution pour les brider, donc on n'a pas un modèle de business. C'est passé, donc la Federal Communications Commission avait dit non, vous n'avez pas le droit de faire ça. Et en gros, la décision des tribunaux était de dire que la FCC n'était pas responsable en la matière, et donc Comcast est capable, s'ils le veulent, de brider en fait YouTube pour leurs clients tant qu'ils n'ont pas une solution ou un accord avec Google.
Et donc ce que tu dis est vrai, mais les tribunaux n'ont pas dit le principe de la neutralité du net n'est pas valide. Ils ont dit c'est pas à la FCC de décider de ce genre de choses. Mais par contre, le principe de la neutralité du net n'a pas été complètement...
C'est vrai, mais c'est la FCC qui était le champion de la neutralité du net quand même.
C'est vrai, c'est vrai. Disons que c'est un coup assez, assez inquiétant à ce niveau-là.
La solution, ça va être Google en tant que fournisseur.
C'est pas faux.
Exactement.
Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
Bah ouais.
Et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'on se dirigera d'ici quelques années. Bon, vous aviez pris votre pause, vous êtes reposé, vous avez respiré deux secondes. Eh ben, on va reparler d'Apple. Oh. Avec l'autre gros événement, l'autre gros événement de ces deux dernières semaines, c'était la semaine dernière l'annonce de l'OS 4.0 pour l'iPhone. On a fait avec Mathieu, d'ailleurs Mathieu lui-même a organisé un fantastique live avec Cédric Bonnet et moi-même et d'autres invités également, pendant lequel nous avons suivi un petit peu tout ce qui s'est passé dans cette présentation.
D'ailleurs, j'en profite pour remercier ceux qui nous écoutent aussi sur le rendez-vous tech, les 14 000 personnes qui nous ont suivis en live, qui est un... Enfin, on le dit souvent, l'audience, on s'en fiche vu qu'on ne fait pas de pub de ça, mais on ne s'attendait pas à autant pour une petite keynote. Donc, merci à tous ceux qui nous ont suivis.
Tout à fait. Et donc, si vous n'étiez pas là, vous ne savez pas ce qui s'est passé, bien sûr. Eh bien, on va vous en parler en deux minutes maintenant. Pour moi, il y a eu trois choses essentielles qui ont été annoncées pour ce prochain système d'exploitation de l'iPhone. Ils ont en fait découpé en plusieurs fonctions qu'ils ajoutaient. Pour moi, il y en a eu trois essentiel. Ah oui, une note en passant, il sera disponible cet été et...
Cet été pour iPhone et cet automne pour iPad.
Exactement. Et le tout premier iPhone ne pourra pas en bénéficier de ce système 4.0. L'iPhone 3G pourra en bénéficier
sans
avec certaines applications qui ne seront pas utilisables, certaines fonctions qui ne seront pas utilisables, et le 3GS pourra en profiter pleinement. Il y a une équivalence à peu près similaire sur le côté de l'iPod Touch. Alors, ces différentes fonctions, la première qu'évoquait Mathieu, c'est la fonction du multitâche. Le multitâche, donc, c'est le fait de pouvoir utiliser plusieurs applications en même temps. Alors, c'est intéressant ce qu'ils ont dit parce que c'est un multitâche qui n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire qu'il y a incluses dans le système certaines fonctions qui vous permettent de continuer à utiliser, enfin, qui permettent à l'application de continuer à faire certaines choses, mais pas tout ce qu'elle veut. Par exemple, vous pourrez quitter une application, mais elle continuera à jouer de la musique. Évidemment, c'est une application très importante. Il y aura une autre fonction qui permettra à l'application de continuer à utiliser le GPS. Là encore, pour les GPS, c'est très important. Une autre encore permettra, par exemple, de finir une tâche comme le téléchargement de quelque chose ou l'envoi d'images sur un compte Flickr, par exemple, ce genre de choses. Et à part ça, la fonction principale, ça va être le fait de mettre l'application en pause, c'est-à-dire que quand vous quittez une application, elle est en pause et vous y revenez, elle recommence exactement à l'endroit où vous avez arrêté, c'est-à-dire que si vous êtes en train de jouer à un jeu, vous quittez l'application, elle ne va pas revenir à zéro, mais elle s'arrête exactement à la seconde près,
l'endroit où on s'est arrêté.
Donc, ça veut dire que c'est du multitâche qui est utilisable et pratique dans, disons, 90% des cas, mais c'est pas le multitâche qui permet à l'application de continuer à tourner pendant que vous faites autre chose. Et ça va convenir à la plupart des gens, mais ça va avoir... disons que le principal avantage de la chose, c'est que ça ne va pas, l'application qui ne va pas continuer à tourner ne va pas continuer à utiliser votre batterie et ne va pas ralentir l'appareil si vous avez deux ou trois ou quatre applications qui tournent en tâche de fond. Donc, c'est un compromis qui, moi, à mon sens, est bon. Maintenant, certains seront peut-être déçus parce que ce n'est pas du vrai multitâche, mais je ne sais pas, vous en pensez quoi ?
Oui, moi, je pense que c'est... moi, je ne suis pas choqué parce qu'il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est qu'on a quand même une batterie et que la batterie, il ne faut pas qu'elle soit bouffée en 30 minutes si jamais tu as 4-5 applications qui sont en accès concurrentiel sur le CPU. Donc, je pense qu'ils ont mis pas mal de temps quand même à sortir cette OS multitâche. Ils ont pris un certain nombre de décisions de design qui me semblent avoir du sens parce que, en gros, des choses qui sont vraiment importantes, donc quand tu as du streaming, quand tu as des messages envoyés, etc., tu vas pouvoir le faire. Mais le fait fait de faire tourner en parallèle des applications. Je veux dire, ce qui est important, c'est que le contexte, le switch de contexte soit rapide. Donc, tu passes de ton application mail à ton application, à ton navigateur internet, à une troisième application, il faut que ce soit rapide. Mais le fait que ça tourne en parallèle, je veux dire, pour moi, ça n'a jamais été un gros problème. Et tu vois aujourd'hui l'iPad qui n'a pas de capacité multitâche, franchement, ça ne me gêne pas.
Castou dit dans la chatroom, pour un vrai multitâche, il faut deux iPhones. Je pense que c'est intéressant. C'est pas faux.
Non, c'est un double tâche, c'est différent.
Non, mais c'est vrai que le multitâche, je pense que là, bon, comment dire, c'était vraiment, l'impression, c'était vraiment, il était temps. Je veux dire, l'iPhone n'a pas le multitâche depuis. Enfin, les autres téléphones ont le multitâche depuis très longtemps, mais personne n'a dit ah mon Dieu, c'est pas du vrai multitâche, donc c'est pourri. Tout le monde a dit ok, il était temps, c'est bien qu'il l'ait, mais ça semble être la bonne solution et une solution peut-être même plus intéressante que celle qu'ont adopté d'autres constructeurs, c'est-à-dire d'avoir effectivement les applications qui tournent en parallèle, plusieurs en même temps.
Moi, donc, je trouve que c'est pareil, c'est un excellent compromis parce que, comme tu l'as dit, le développeur a accès à des fonctions qui sont déjà présentes et déjà chargées dans l'OS, comme le téléchargement d'un fichier, comme la lecture de la musique. Toi, c'est pas des choses qui vont se charger en plus et qui vont consommer plus. Donc, ça va permettre à des applications de continuer à fonctionner, comme par exemple, tu t'imagines bien un Spotify en tâche de fond. Voilà, bien il va sûr, dire de la musique, même si tu le quittes, d'avoir un Skype en tâche de fond qui va se réveiller dès que quelqu'un t'appelle. Toutes ces fonctionnalités qu'on attendait, en fait, sans avoir les problèmes de batterie qui se décharge, sans avoir les problèmes de task manager, c'est-à-dire où tu dois aller
de gestion des différentes applications.
Voilà, quoi. Ah mince, j'ai une application qui me bouffe de la mémoire, je dois lancer une application, un genre de contrôle alt-sub sur mon iPhone pour aller tuer telle application. Enfin, non, c'est inimaginable.
Et d'ailleurs, il y a une, il est possible d'aller fermer les applications. Entre parenthèses, j'ai aussi eu la chance d'essayer l'OS 4.0 puisqu'il est disponible pour les développeurs et que Cédric Bonnet m'a gentiment prêté son téléphone pendant quelques minutes.
T'as fait payer combien, toi ?
C'est une information que je ne peux pas divulguer. Ah ouais. tu peux effectivement quitter une tâche, mais la chose qui est très intéressante, c'est que pendant la session de questions-réponses qu'ils ont fait après la présentation, un journaliste a demandé à Scott Forstall, le vice-président du logiciel iPhone chez Apple, a demandé comment est-ce qu'on fait pour fermer une application. C'est possible de fermer une application, mais ce qu'a répondu Scott, c'était c'est un truc dont vous n'avez pas à vous soucier. C'est-à-dire que on n'a même pas besoin de se dire mon application doit être fermée. Et quand on l'utilise, c'est vrai que pour passer à la petite barre où toutes les applications qui sont en train de tourner sont affichées, il faut appuyer deux fois sur le bouton Home. Et ce qu'on y trouve, c'est toutes les applications qu'on a utilisées. Parce que, étant donné que toutes les applications sont mises en pause, on n'a pas vraiment besoin de savoir s'il y en a une qui est en train de tourner ou pas. Ça importe pas du tout. L'application, qu'elle tourne ou pas, ça ne change rien. Elle est simplement dans la barre en dessous. Si on appuie dessus et on la réactive, eh ben, elle se remet à tourner. Mais si on n'appuie pas dessus, elle est dans sa barre tranquillement en train de dormir. Mmh. Et elle n'a aucun impact sur les performances du téléphone. Donc, le fait de devoir aller fermer une application n'est pas important. Donc,
c'est pas important. Et c'est exactement ça rejoint ce que j'ai dit, c'est-à-dire que les fonctions qui sont mises à disposition pour fonctionner en tâche de fond sont déjà chargées dans le système quand tu le démarres. Mmh. Télécharger un truc sur Internet ou lire de la musique en fond, c'est déjà chargé dans le système. Ce qui fait que l'application qui veut tourner en tâche de fond n'a pas besoin de lancer quelque chose de supplémentaire en parallèle et tout. Elle va utiliser une fonction qui est déjà là.
Tout à fait.
Donc c'est pour ça, tu peux en lancer 15 en même temps. L'application en elle-même se met en pause et déchargée de la mémoire. Et il n'y a plus qu'une seule fonction qui a retenu l'action qu'elle a à faire, quoi.
Donc, comme on le disait, c'est pas une fonction révolutionnaire, très loin de là. Et même Apple était très en retard sur ce point.
Mais c'est les seuls à l'avoir fait comme ça, quoi. Ouais. Comme voilà, le copier-coller.
Donc c'est un bon compromis. Les autres fonctions qu'ils ont annoncées, moi il y en a deux que je retiens, dont je voudrais parler un petit peu plus longuement. La première, c'est Game Center, qui est une sorte de réseau social pour les jeux.
Franchement, c'est un Xbox Live dans ton iPhone.
Tout à fait, ouais, c'est ça. Et moi j'avais constaté déjà depuis quelque temps que, depuis plusieurs mois, je me disais, ça donnerait une dimension sociale à l'iPhone et dans les jeux ou d'autres types d'applications s'il y avait un réseau social propriétaire d'Apple que tout le monde puisse adopter très facilement. Et on était quelques-uns à avoir parlé de cette possibilité, et effectivement on devait avoir pensé à quelque chose de valide puisqu'ils l'ont fait, sorti de nulle part sans que personne s'en soit douté, et ça va véritablement donner une importance à cette interaction qu'on a entre amis à travers le téléphone qui va, à mon sens, véritablement donner un plus incontestable à l'iPhone par rapport à d'autres plateformes de jeux portables, et quelque chose de véritablement transformateur pour cette industrie.
Non, puis il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que c'est un facteur de croissance absolument monstrueux de Facebook, avec des jeux comme Farmville qui ont maintenant 70-75 millions d'utilisateurs grâce à la capacité donc du jeu à utiliser la plateforme d'invite de copains, de partage, etc. De Facebook. Et ouais, je pense que Apple, clairement, où il n'y a pas un once de viralité et pas un once de réseau social aujourd'hui sur la plateforme, ne devait pas rester en arrière là-dessus, quoi. Et je pense que c'est une super bonne nouvelle. Moi, j'ai une de mes boîtes qui a aujourd'hui 32 millions de jeux installés donc sur la plateforme. Pour eux, le fait qu'ils aient une possibilité d'avoir un réseau social qui vient d'Apple, c'est une super bonne nouvelle, quoi.
Tu parles bien sûr de Tapulous qui édite des jeux à grand succès comme Tap Tap Revenge et autres.
Et merci pour le plug, Patrick.
Non mais je t'en prie, c'est une... Non mais tu sais, je le ferai peut-être même si j'aimais pas, mais en l'occurrence Tapulous, c'est des gens très bien, donc enfin en tout cas les jeux sont très sympas. Et il y a un truc, bon, certains développeurs ne doivent pas être super contents, il y a des développeurs qui avaient déjà des réseaux sociaux sur iPhone, c'est sûr que ça risque de leur faire un peu d'ombre, mais au final, je pense que ça sera quelque chose de bénéfique pour la plateforme en général et surtout pour les utilisateurs. Donc ça, c'était une très bonne surprise qui a été annoncée. L'autre chose qui n'était pas une surprise du tout, par contre, mais qui est très important aussi, c'est l'annonce de iAd, qui est en fait leur propre régie publicitaire pour iPhone, la régie publicitaire d'Apple, qui est même un petit peu plus qu'une régie publicitaire. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas simplement proposer des publicités à placer dans les applications, mais ils ont l'ambition de transformer les publicités de l'iPhone pour en faire des petites expériences interactives qui sont plus intéressantes que le simple fait de regarder une publicité, une simple affiche. Et il y a deux choses qui sont importantes. D'une part, il y a le fait que la publicité s'affiche dans l'application, c'est-à-dire que si on clique dessus, on ne quitte pas l'application. Donc, ça incite les gens à cliquer plus facilement parce qu'on ne va pas quitter l'application, aller ailleurs et ensuite devoir revenir sur l'application. Ça ouvre simplement une page qu'on peut refermer très facilement et revenir là où on en était. Et l'autre chose très importante, c'est qu'ils ont montré des exemples de ce qu'ils pouvaient faire, et c'est des véritables mini-applications dans l'application qui peuvent être sympathiques à utiliser. Donc c'est pas simplement un truc dont on n'a rien à faire. Ils ont montré des exemples avec des chaussures Nike ou le film Toy Story 3, et c'est vrai que ce genre de choses, si c'est ce genre de publicité qu'on propose, moi je dis ben pourquoi pas, si j'ai l'option,
encore plus
peut-être
si elle est ciblée, quoi.
Exactement.
C'est un truc énorme, enfin, je veux dire, d'un point de vue développeur, le fait que ce soit sponsorisé par Apple, que Apple mette son design, mette en place les API à l'intérieur, fasse en fait tout le travail qui était difficile à faire pour un third party, c'est quelque chose qui est absolument monstrueux. C'est une super bonne nouvelle. Bon, c'est une mauvaise nouvelle pour Google et pour leur acquisition d'AdMob, puisque clairement c'est le concurrent aujourd'hui numéro un, donc ça va être difficile pour eux. Mais le fait qu'ils essaient de transformer l'expérience en rajoutant en quelque sorte l'expérience Apple au niveau de la pub, c'est absolument monstrueux.
Moi je dirais deux choses à ce propos. D'une part, je suis pas certain que ça soit une bonne mauvaise nouvelle pour Google, puisque leur acquisition d'AdMob était soumise à des questions de régulation pour monopole. Et si Apple lance iAd, enfin c'est le cas, Google peut dire ah bah on n'a pas le monopole puisqu'il y a Apple aussi. et donc ça peut autoriser leur rachat. Donc je pense qu'ils y gagnent au final, plutôt que d'être interdit, que le rachat soit interdit pour des questions de monopole.
Tu as raison de ce côté-là, Patrick. Mais d'un point de vue qualité de la pub, capacité d'insertion, etc., etc., AdMob deviendra, qui est aujourd'hui le plus gros annonceur, en fait, le plus gros ad network sur l'iPhone, va se retrouver, en fait, dans une certaine position de faiblesse, sachant que quand tu regardes les eCPM, donc combien est-ce qu'ils vont te payer si tu affiches une de leurs pubs, clairement, dans le monde du smartphone, ils étaient largement plus hauts que sur les téléphones standards.
Ça, c'est sûr que le marché qu'ils vont récupérer risque d'être moins intéressant qu'il ne l'était il y a quelques mois.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Petite
pensée là-dessus.
Bien sûr.
Il y a Apple qui dévoile sa régie publicitaire. Il y a Google qui a sa régie publicitaire à elle, sa régie publicitaire et son moteur de recherche.
Microsoft, dis quand est-ce que Microsoft va...
Microsoft a sa propre régie de publicité et son propre moteur de recherche. C'est à quand que Apple va dévoiler son propre moteur de recherche avec sa vision qui a été un petit peu dévoilé de recherche sans publicité.
Moi, je crois que ça, c'est le domaine dans lequel ils ne peuvent pas se lancer parce que ça demande trop de ressources.
Imaginez... C'est pour ça qu'ils font un data center géant.
ils sont en train de faire un data center géant ?
Oui, qui... t'as pas vu les vidéos et tout le truc. C'est un monstre.
Écoute, peut-être alors.
Il y a plein de choses comme ça qui font quand t'as Steve Jobs qui te balance comme ça une keynote, quand les gens veulent chercher quelque chose sur Internet, ils veulent pas voir de la pub, qui te sort une régie publicitaire, que c'est le seul qui a pas son propre moteur de recherche face aux concurrents directs.
Ouais. Non, mais c'est sûr que d'autant plus que Apple pèse financièrement plus lourd que même que Google. Donc
en fait, tu vois qu'en fait, c'est un des rares maillons qui manque parce que je vois mal Google dire on sort une tablette avec notre régie publicitaire et notre moteur de recherche, Microsoft faire la même chose et Apple dire nous on sort notre tablette avec notre régie publicitaire et puis le moteur de recherche on vous met juste une touche search et puis vous choisissez. Tu vois ?
C'est possible, ouais. Surtout que effectivement, Steve Jobs étant un maniaque du contrôle, il risque de vouloir contrôler cette partie aussi. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que le résultat de cette régie publicitaire, c'est que Apple, qui faisait de l'argent sur toutes les applications, sauf les applications gratuites qui représentent la majorité des applications disponibles.
Là, ils ont trouvé une solution.
Exactement. Ça veut dire que la vraie signification de cette annonce, c'est que Apple va commencer à faire beaucoup d'argent sur les applications gratuites. Donc, tout ce qui va passer par leur store, alors que c'était pas encore le cas, tout ce qui va passer par leur store, leur fera de l'argent, que ce soit application payante, achat dans une application ou application gratuite. Alors évidemment, les développeurs auront toujours le choix de mettre une pub d'une régie différente de celle d'Apple, mais étant donné que ça sera plus simple et a priori plus intéressant avec Apple, je doute que beaucoup fassent ce choix-là.
Ça va être tout intégré comme d'hab, il y aura les API qui vont être disponibles et puis en plus ça va être en HTML5, donc est-ce qu'ils vont en plus se positionner frontalement à plus ou moins à Adobe en sortant un outil de développement qui permet concrètement de développer, d'avoir un écosystème d'outils autour de l'HTML5. Il y a plein de choses sur ces produits qui peuvent nous dire est-ce qu'ils vont sortir un moteur de recherche? Il y a très forte chance. Est-ce qu'ils vont sortir des outils pour faire de l'HTML5 et se mettre en face d'Adobe et de son Flash? Il y a plein de choses intéressantes à venir.
Maître du monde. les autres annonces qui ont été faites sur cette OS 4.0, c'était une amélioration du logiciel de courrier, de mail, avec la possibilité d'avoir plusieurs boîtes. Alors là, on va parler un petit peu pour les entreprises, mais plusieurs boîtes de réception Exchange, une boîte de réception unifiée où tous vos comptes seront dans la même boîte, la possibilité d'avoir des discussions, des affichages en discussion, donc pas un mail différent, mais une discussion qui va inclure tous les mails qui sont liés, une série de fonctions qui permettront le déploiement en entreprise plus facile, c'est-à-dire des questions de sécurité et de virtualisation, de réseau privé et de déploiement, qui vont faire que l'iPhone, qui était traditionnellement plutôt sur un marché de consommateurs, risque de s'intégrer aussi dans le marché des professionnels, ce qui était le dernier bastion en fait qu'Apple n'avait pas vraiment conquis, et là ça devient possible. Donc a priori BlackBerry doit être un petit peu inquiet possiblement. Donc c'est l'essentiel des choses dont je voulais parler sur l'OS 4.0. Une autre chose, une autre fonction qui vous avait marqué ? Ah oui, les répertoires qui sont sympas aussi.
C'est-à-dire que les folders, ouais.
Voilà, les répertoires que vous allez pouvoir.
Ceux qui ont pu le tester, j'ai eu des gens qui n'étaient pas franchement fans, mais les rares personnes qui ont installé iPhone OS, mon première chose m'ont dit oh, c'est génial, oh, c'est rangé, c'est super.
Ouais, c'est mignon, quoi. Disons, tout le monde voulait avoir plus d'applications sur son iPhone affichées. Et la solution simple à laquelle on pense tout de suite, c'est rajoutons des pages, parce que là, il n'y a que 8 pages. Mais la solution plus intéressante, c'était effectivement les dossiers. Et les dossiers, ils sont pas mal faits parce que vous pouvez mettre, donc, je crois, 9 applications par dossier. Et vous avez une image des applications qui sont dans ce dossier, en tout petit dans le dossier, donc vous pouvez toujours voir de quoi il s'agit. Bref, c'est pas mal foutu. En gros, cet OS, pour moi, c'est une bonne mise à jour qui amène à l'iPhone 90% des fonctions qui lui manquaient par rapport aux autres téléphones, mais il garde toujours les fonctions qui font qu'il est plus agréable à mon sens que les autres et qui fait que je l'ai toujours, même si ces fonctions lui manquaient jusqu'à aujourd'hui. Donc, en gros, j'ai pas de raison de passer à un autre téléphone à partir du moment où cette OS arrive. Par contre, rien de super révolutionnaire non plus. On est d'accord ?
Enfin, sauf que quand tu vas avoir le refresh de l'iPhone lui-même, donc le nouvel iPhone qui va sortir à un moment dans les quelques mois qui viennent, tu peux voir comment est-ce que un nouveau processeur qui va être plus rapide et plus économe, donc le processeur de l'iPad qui va se retrouver dans l'iPhone, plus le nouvel OS, ça va te donner une expérience vraiment, vraiment sympa. Moi, ce que j'attends avec impatience, en fait, c'est le couplage de l'iPhone OS 4.0 avec le nouvel iPhone, parce que
je suis entièrement d'accord avec toi, Jeff, mais on en parlera quand il sera annoncé. Là, il est
surtout qu'on voit traîner des bouts de code partout d'un iChat vidéo mobile depuis plusieurs mois. Donc,
C'est sûr que les rumeurs font état d'une meilleure caméra, d'une caméra frontale pour faire de la visioconférence, d'un zoom même, puisque le nouvel OS a des fonctions de zoom qui ne seront qu'en digital pour cet appareil, mais peut-être en vrai zoom pour le prochain. Enfin, des choses intéressantes, quoi. Mais ça, on en parlera quand il arrivera, dans quelques mois. Une chose, par contre, qui a enragé la plupart des développeurs, c'est qu'il y a... parlons un petit peu d'histoire. Vous savez que Apple et Adobe sont engagés dans un combat titanesque depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, parce que Flash, donc les animations, le plugin qui vous permet d'avoir de très belles animations sur le web, n'est pas disponible sur l'iPhone, ni même sur l'iPad d'ailleurs. Et beaucoup de gens voudraient que Flash arrive sur l'iPhone, mais Steve Jobs explique à Mordicus que le Flash fait trop planter les machines et il est trop gourmand en ressources et il a plein de problèmes, donc il ne veut pas du Flash sur son ordinateur. En attendant, certaines pages web ne sont pas entièrement disponibles parce qu'il n'y a pas de Flash. Donc, beaucoup de gens s'en plaignent. Les défenseurs de l'iPhone disent bah, ça boufferait la batterie, ça le ferait planter, donc on n'en veut pas. Et Adobe avait a évidemment un intérêt énorme à être présent sur ce marché monumental. Donc, ils ont développé une petite, un outil qui permettait aux développeurs de traduire leurs applications Flash sur iPhone. C'est-à-dire qu'ils faisaient une application pour Flash qu'ils utilisaient sur le web ou sur d'autres plateformes, et en la passant par cette petite moulinette, ils sortaient une application iPhone directement traduite. Et l'une des nouvelles conditions de l'accord des développeurs avec Apple est qu'ils n'utilisent pas d'outils de troisième partie, donc d'outils externes, pour manipuler et pour écrire leurs applications. Effectivement, ce que ça veut dire, c'est que les développeurs n'ont pas le droit d'utiliser cet outil d'Adobe pour traduire leurs applications Flash, ni d'autres outils différents qui peuvent leur faciliter le travail, comme des moteurs 3D ou ce genre de choses, a priori, seront plus difficiles à utiliser pour développer des applications iPhone. Ce que ça veut dire, c'est que le travail des développeurs va être plus difficile, et la raison qu'a donnée Apple, c'est qu'ils veulent s'assurer que le code écrit pour leur appareil, ils puissent le vérifier et vérifier qu'il est propre, bien fait et qu'il tire bon parti de la machine. Donc, ils veulent que les développeurs se concentrent véritablement sur l'iPhone et n'aillent pas écrire une application pour 4 ou 5 appareils différents qui seraient en fait grévés parce qu'ils doivent développer pour le plus petit dénominateur commun. Voilà, ça c'est en gros la situation telle qu'elle est. Si vous allez sur les sites d'amateurs de technologie aujourd'hui, le monde entier est en train de s'insurger contre Apple pour ce point. Et moi j'avoue que, excusez-moi, je vous laisse finir juste après. Moi j'avoue que je suis plutôt défenseur d'Apple sur ce point de vue, parce que autant quand ils refusent d'approuver une application comme Google Voice ou une application comme le navigateur Mozilla Firefox Mobile, ça c'est simplement une question de monopole et de choix un petit peu maléfique, on pourrait même dire les choses comme ça. Mais par contre, là où ils peuvent avoir une justification dans leur choix qui paraissent draconiens, c'est qu'ils veulent avoir une expérience contrôlée et de qualité pour toutes les applications de l'iPhone, ou autant d'applications que possible, et c'est pour ça qu'ils vont virer des applications totalement inutiles comme les coussins péteurs et les machins comme ça, et qu'ils vont avoir des règles aussi draconiennes sur le développement d'applications, parce qu'au final, ça veut dire qu'un utilisateur qui va dans l'App Store, il va trouver plutôt des applications bien développées, qui tirent parti de l'appareil, et pas tellement de coussins péteurs. Alors que si on va sur un système complètement ouvert et totalement disponible de partout, comme Android, on va se retrouver avec des applications de qualité, bien sûr, mais perdues dans une forêt de coussins péteurs, de trucs pas super bien faits, d'applications qui ont été développées pour 3 ou 4 appareils différents, donc qui ne tirent pas parti des qualités de l'appareil, etc., etc. Ça, c'est mon analyse. J'imagine que Mathieu, en bon fanboy, a la même.
Bah, même au-delà. C'est-à-dire qu'il faut essayer de comprendre l'écosystème d'iPhone. C'est-à-dire que ce qu'ils ne veulent pas, c'est toutes ces applications en langage interprété. C'est-à-dire,
trop technique non plus. Ouais, n'oublie pas qu'on parle.
Comme tu l'as dit, tu développes un truc en Flash, et bah tu peux l'utiliser sur le web, tu peux l'utiliser sous Linux, sous Windows, sous Mac, parce que sur chaque système, tu vas avoir un petit logiciel qui va interpréter ton truc en Flash pour le rendre lisible sur le système où t'es. Ça, Apple n'en veut pas, parce que si Apple fait ça, elle ne peut pas faire son multitâche comme elle l'a fait pour cet iPhone OS 4. Parce que comme tu l'as dit, l'application que tu quittes sur l'iPhone OS 4, tu la retrouves au même endroit où tu es. Bah, pour arriver à ce genre de fonctionnalité, le système a besoin de contrôler l'application et entre guillemets, qu'elle soit exactement dans le même langage, que le système puisse, comment dire, que l'application soit développée spécifiquement, parce que c'est des API qui n'existent que sur l'iPhone OS, ouais, pour pouvoir arrêter une application et la reprendre en cours de route. Donc, ne serait-ce que dire, on fait le multitâche ouvert au flash, et ben on ouvre l'iPhone aux applications en flash, ben le multitâche, tu l'oublies. Ou alors, ouais, t'es obligé de faire un multitâche comme les autres, où t'as un task manager, où ta batterie, elle se vide, et où ton téléphone se met à ramer, plus il y a d'applications qui sont lancées. Donc déjà, rien que les gens qui disent « Oui, machin, pas d'application en flash, on comprend pas », j'ai pas dit « Bah, c'est soit l'un, soit l'autre. Hein. Soit t'ouvres la porte à des applications lentes, parce que le flash sous Mac est horriblement lent, et c'est vrai qu'il est buggé. Hein. Suffit de le tester. Hein. Lis un film en flash sur un MacBook, et tu verras ta batterie descendre en flèche. Hein. Ça, y a pas de secret. »
D'accord.
Donc c'est une question technique, d'ordre technique, où vraiment il y a un problème parce que ça ne permet pas le multitâche, ça ne permet pas plein de choses. Il y a une question que c'est super mal optimisé parce que ça bouffe la batterie, le flash sous Mac est vraiment mal foutu au niveau de l'optimisation, et c'est nul, on peut même dire vraiment c'est nul. Et après effectivement, tu as l'expérience utilisateur où quand tu soumets ton application sur l'Apple Store, tu as une personne chez Apple qui va lire la manière dont tu as construit ton application et dont tu as codé, soit va la valider, soit va te faire un retour en te disant ça tu l'as mal fait, ça il faut l'optimiser, ça il faut travailler dessus pour que ça passe.
Ouais, donc effectivement il faut qu'il puisse voir à l'intérieur.
Voilà, et donc on pose la question souvent dans la chatroom, mais pourquoi ne pas laisser le choix aux utilisateurs? Parce que la plupart des utilisateurs ne savent pas qu'ils ont à faire ce choix. Si quelqu'un télécharge des applications pourries sur son ordinateur, c'est pas un choix qu'il fait. Il télécharge, il s'en rend pas compte, et puis pour lui, c'est la machine qui déconne.
L'un des gros problèmes de Windows. Windows est un système véritablement bien fait aujourd'hui. Généralement, quand il plante, c'est pas de la faute de Windows. C'est de la faute soit du driver, soit de tel périphérique, soit de tel logiciel qui a été mal écrit.
Il y a une statistique intéressante, et d'ailleurs Apple a fait la même. Microsoft qui a dit que voilà, les rapports de plantage d'Internet Explorer, c'était 60, 70 ou 80% de la faute des modules tierces. C'est-à-dire tous ces trucs que tu mets en plus sur ton, que ce soit une barre, que ce soit un composant en plus qui te rajoute des fonctions, c'est un facteur important de plantage. Et puis c'est vrai que quand tu vois les rapports de développeurs qui ouvrent leurs applications à des modules tierces, bah la plupart des plantages, ça vient de là. Hein.
Et d'ailleurs, c'est un très bon exemple, puisque quand Internet Explorer plante, on se dit pas « Oh là là, mon module de tierce fait planter ».
Si t'as la version 6... Si,
oui,
c'est elle
ça
qui
c'est
plante.
Un autre problème. Dis-moi, Jeff, toi qui as l'oreille des développeurs, quand Apple a annoncé cette nouvelle restriction, j'imagine que tu leur en as parlé. Ils sont déçus de cette histoire. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont déçus, mais eux, les gens de Tapulous justement, qui développent spécifiquement sur iPhone.
Bah non, parce que de toute façon, eux, ils ont développé depuis le début en Objective-C, et donc le fait que Flash soit pas sur le device, c'est pas un problème. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est comme vous disiez, Flash a été utilisé et abusé de façon énorme. Si on écoute les gens de Firefox, je suis un copain de John Lilly qui est le CEO de Mozilla Foundation et de Mozilla Corp, et effectivement quand je lui dis ton truc s'est encore planté, il dit t'avais un truc flash affiché, il dit parce que t'imagines même pas, c'est 80% de nos plantages qui sont liés à flash, quoi. Et donc c'est vraiment n'importe quoi, et donc il y a une seule personne au monde qui pouvait arrêter ça, c'est Steve Jobs, en disant bah voilà, pas chez moi. Donc, mes outils, voilà, HTML5, c'est très propre. Et si on regarde en fait les applications qui sont aujourd'hui disponibles sur l'iPad, en termes d'interactivité, en termes de vidéo, en termes de photo, il y a aucun problème. Simplement, il y avait un message à faire passer. Et je pense que c'est une position qu'il a prise, qui est une position de force. Est-ce que c'est vrai que c'est du Monopoly, mais
du Monopoly, oui. Parce que le Monopoly, c'est un jeu de société, en fait.
Oh, c'est pareil, vous faites chier. Tout le monde travaille son anglais comme ça, non? Donc c'est du monopole. Mais je pense que c'est le seul mec qui était capable de monter sur ses grands chevaux et faire ça, quoi. Et je pense qu'objectivement, l'Internet, in fine, sera pas, s'y trouvera pas plus mal, quoi. Alors, ouais, moi, derrière, le problème des développeurs, donc, quand tu vois tous les développeurs de Flash Games, par exemple, donc les, tous les jeux en Flash, c'est une énorme industrie. Et c'est vrai que pour eux, c'est un gros problème. J'en discutais avec, avec quelques CEO. Bon, bah, pour eux, de toute façon, ils sont sur le marché du desktop, ils sont sur le PC, ils sont sur le Mac. Leurs jeux ne supportent pas forcément une expérience de type mobile aujourd'hui. C'est-à-dire, tu fais tourner leur truc sur Android, bah, c'est pas GGN. C'est un vrai problème. Il faut qu'ils réfléchissent à ce que ça veut dire.
Moi, j'irais même plus loin pour cette question de l'hégémonie de, d'Adobe avec Flash. C'est que, d'abord, moi, je ne suis pas super, super heureux que Flash soit aussi important sur le web aujourd'hui. Donc, ils ne me manqueront pas. Et d'autre part, je dirais même beaucoup plus par rapport à la relation entre Apple et l'iPhone et Adobe. C'est que, imaginons que Apple ait autorisé dès le départ l'utilisation de Flash sur son iPhone. Comme tous les développeurs avaient l'habitude d'utiliser Flash, il est à peu près certain que...
Qu'ils en auraient fait plein d'applications et pour
exactement.
Ceux, et ceux qui ont déjà utilisé des applications Flash sur iPhone,
non, non, mais
c'est horrible.
C'est même pas que ça, en fait, Mathieu. Ce que je veux dire, moi, c'est une réflexion d'ordre plus large. C'est-à-dire que, en autorisant ça, ils auraient permis à Flash de devenir les applications iPhone. Parce que c'est tellement plus simple que tout le monde aurait développé en Flash et ils auraient donc ouvert leur téléphone à Adobe. C'est-à-dire que Adobe serait devenu une pièce absolument maîtresse de l'iPhone et il est évident, mais complètement évident, que Apple ne pouvait pas autoriser ça. Ils ne pouvaient pas livrer leur système d'exploitation à Flash. Donc, la question, en fait, ne se pose même pas. C'est à ça que je veux en venir. Parce que beaucoup de gens disent « Mais mettez Flash, ça ne changera rien ». Si tu vois les conséquences de quand tu mets Flash, en dehors du fait que ça soit stable ou pas, le fait que ça donne toutes les applications à Adobe, parce que toutes sont faites en Flash, ça veut dire, bah non, on peut pas.
Donc, voilà. Non, mais, et c'est surtout pour ceux qui ont déjà testé une... si Apple avait autorisé ça dès le début, l'iPhone n'aurait pas été... n'aurait pas atteint ce niveau de popularité, parce que c'est ce qu'on se disait juste avant. C'est le fait qu'on aime tous l'iPhone et ce système, c'est que quand tu touches, c'est réactif. Et pour ceux qui ont déjà pu tester une application en Flash sur iPhone, mais t'as l'impression d'être sous Windows Mobile 6. C'est d'une réactivité qui est lente. T'appuies, tu passes, ça réagit une seconde après, c'est mal
optimisé.
Tu veux
dire sur des iPhone jailbreakés où il y a
sur des iPhone jailbreakés où tu peux... des iPhone jailbreakés où on a pu tester les applications, le module actuellement que Adobe a fait pour créer ces applications en Flash qui n'a pas été validé. C'est d'une lenteur, mais t'as l'impression de revenir 15 ans en arrière sur les premiers smartphones.
D'accord.
C'est lent, c'est pas réactif, tu traînes ton doigt, il n'y a pas 0,1 seconde de latence, t'as 0,5, 6, 7, c'est lent.
Et tu dis adieu à ton autonomie en termes de batterie, je veux dire.
Et moi,
c'est ça le truc qu'on n'a pas mentionné avec l'iPad, c'est que ce truc, ça a une durée de vie qui est absolument monstrueuse. Je veux dire, tu bourrines dessus pendant toute la journée, tu vas peut-être bouffer 50% de la batterie, 60% de la batterie, même si tu fais de la vidéo. Donc quand ils te disent ça dure 10 heures, même quand tu fais de l'affichage de vidéo, c'est bien en dessous de la vérité. Je suis sûr que ça va durer une quinzaine d'heures. Tu mets du flash là-dedans, tu réduis par 3 ou 4.
Moi, je l'ai utilisé pendant une heure non-stop. J'ai tout essayé pendant une heure. Il a utilisé même pas 10% de la batterie, ce qui veut dire qu'effectivement, ça fait une dizaine d'heures en usage complètement intensif.
En fait, ce qui pour les gens qui nous écoutent et qui n'y comprennent rien à tout ça, il faut comprendre que tous ces langages, flash... Java, tous ces noms qu'on appelle des langages interprétés, c'est comme dans la vie courante. Si maintenant Patrick et moi on parle français, on se parle directement. Et si Patrick parle une autre langue, on est obligé de mettre un interprète entre les deux. Et il y a le temps de la compréhension de ce que dit Patrick et il y a le temps de la traduction vers moi. C'est exactement la même chose en informatique. Et c'est ça ce problème, c'est que tu rajoutes une personne, ça fait prendre des ressources et tu rajoutes une durée de traitement entre les deux.
Très bonne explication.
Quand moi je parle.
Monopoly, Patrick Monopole, voilà.
Bon, écoutez, sur cette bonne plaisanterie, je pense qu'on va un petit peu parler de Microsoft parce que ils se sentent un petit peu délaissés là. Donc, on va parler
de. Si tu nous écoutes, c'est pour toi.
On va parler de cette annonce qu'ils ont fait aujourd'hui, qu'ils sont en train de faire maintenant, de ce projet Turtle dont ils avaient parlé depuis très longtemps, qui était une sorte de téléphone dont on comprenait pas exactement ce que c'était.
Tu peux le dire au présent. Hein.
Dont on ne comprend pas exactement ce que c'est. Vous pouvez aller sur kin.com, K-I-N.com.
Ils ont dû le racheter cher, ce nom de domaine. Hein.
Kin, ça veut dire fratrie, fraternité, ce genre de choses, amitié. Enfin, ouais. Kinship, c'est la proximité entre les personnes.
Et c'est aussi le nom du projet à la base qui était Pink. Et en gros, c'est Pink à l'envers et le P certainement qui voulait dire phone.
D'accord, exact. Bah, c'est intéressant, oui. Donc, Kin, c'est quoi ? Alors, je vous recommande d'aller sur le site.
C'est quoi ?
Site...
Si vous trouvez la réponse, il y a des cadeaux à gagner.
Alors, vous allez sur kin.com et vous essayez de trouver ce que c'est. Alors, moi, j'ai regardé hein, avec attention et je vous avoue que j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai fini par comprendre, mais quelque chose de plus... de plus obscur, c'est difficile à imaginer. Alors, vous allez sur le site et vous voyez des gens plutôt cool avec. Enfin, il y a des vidéos qui sont de qualité vraiment parfaite, super bien faites, avec une couleur d'image vraiment particulière, un grain vraiment intéressant.
Enfin, si de vous gens êtes sous qui flash, sont en train vous de. Pas, vu que tout le site est en flash, donc c'est.
Donc avec des gens qui dansent, qui s'amusent, qui sont dans un concert, qui chantent, qui sortent un petit téléphone, qui font des petits trucs qu'on comprend pas trop, et voilà. Et puis après on passe sur une autre vidéo, pareil, des gens qui dansent, qui s'amusent, qui courent dans la rue, qui font...
Mais parce que c'est la vie de tous les jours, Patrick, hein. Tu sors, tu danses, tu t'amuses, c'est la crise, on s'en fout, allez.
T'as vu cette annonce, Jeff ? T'as compris de quoi il s'agissait ?
Non, mais moi j'ai lu l'annonce donc du Kin 1 et du Kin 2. Donc, bah, c'est des téléphones qui sont plutôt orientés vers les 15, 20,
social,
25
quoi.
Ans. Donc, le social, etc. Et donc, c'est pour ça que les pubs. T'es trop vieux, Patrick, en gros, pour ces pubs-là. C'est pour ça que tu ne les comprends pas. T'es pas plugué, quoi, tu vois. C'est,
exactement.
Tu
dis, ouais. En fait, j'ai quand même fini par comprendre. C'est un téléphone qui se veut être le remplaçant d'aujourd'hui du Sidekick. Ce que c'est le Sidekick, c'est...
Ah, ce truc qui perd les données, là.
Alors, c'est un téléphone dont les jeunes, les Jones, les teenagers, étaient très, très friands aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est un appareil qui vous permet de communiquer avec SMS et texte et email très facilement. Il y a Mafieux dans la chatroom qui dit le tatou tam-tam. C'est un petit peu ça, en fait, en version moderne. C'est-à-dire qu'il y a une interface spécialement dédiée pour tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc., SMS, email. Et les jeunes, a priori, sont très, très friands de ce genre de choses. Donc, et on ne peut pas téléphoner avec. Donc, ce n'est pas vraiment un téléphone. Mais visiblement, ce type de produit est vraiment populaire et a priori
y a
ça
pas
sera
une touche
un vrai j'ai pas l'impression.
Moi j'ai vu un truc phone.
D'accord. Si bah écoute,
je crois que tu peux il fait téléphone hein, mais je crois parce que s'il fait pas téléphone là effectivement ça sert vraiment à rien.
Bah ça sert à rien pour nous mais
si il fait téléphone
mes...
hein. Il fait phone. Okay. Ouf, ouais, heureusement. J'ai eu peur.
Mais
ouais,
je t'assure que les même si enfin bon, il fait téléphone très bien mais c'est vraiment ce qui va le différencier évidemment, c'est ces fonctions là qui sont spécifiquement designées pour cet appareil qui sont a priori une version de Windows 7 hein, c'est une interface très spécifique de Windows 7 à mon avis, même si on plaisante, on dit ouais, on comprend pas à quoi ça sert, c'est bizarre et tout, à mon sens ça va beaucoup beaucoup plaire aux jeunes. Donc, moi, je crois que c'est pas une mauvaise... On pourrait se dire, a priori, la première réaction, c'est genre, ils vont sortir Windows 7 et ils ont ça à côté. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de
Bah oui, ils font du logiciel. Leur objectif, si je me trompe pas, Jeff, c'est du volume.
Non, mais c'est plus que ça. À mon avis, c'est que ce produit en particulier va être vraiment un succès pour un certain segment de la population.
Je sais pas, Nokia, on a sorti beaucoup des téléphones comme ça et ça a jamais, ça a jamais dépassé. En plus, le Kin, comme on le voit aujourd'hui, les premières photos ont été diffusées sur Gizmodo en septembre 2009.
Ouais. Mais
c'est un truc qui...
Oui, mais c'est l'interface qui est importante, c'est le logiciel, pas l'appareil.
Ouais, je pense bien, mais c'est pas tactile, c'est rien. Aujourd'hui, tous les jeunes que tu vois, ils ont un iPhone entre les mains. Et...
Si, c'est tactile.
Oui, pardon, il est tactile. Ouais, ouais.
Enfin,
j'ai du mal avec les téléphones spécialisés, puis il n'y en a jamais un qui a vraiment marché, quoi. Parce que les gens...
Bah, le sidekick
Je pense que Gizmodo résume parfaitement dans leur phrase d'intro. It's the phone I'd beg my mom for if I was 15 again and didn't want an iPhone. Donc en gros, si tu veux pas un iPhone pour une raison quelconque, tu prends ça. Mais je vois pas pourquoi tu irais pas acheter un iPhone. Alors la question, c'est quel va être le prix. Et en gros, c'est là. Quel va être le prix, quels vont être les plans. Donc est-ce qu'on va avoir du text messaging dedans,
quoi.
Est-ce qu'il va y avoir des abonnements? Parce qu'aujourd'hui, tu te fais assassiner sur l'iPhone. Genre, l'autre jour, je me suis retrouvé avec 2500 text messages que mon fils a envoyé en un mois, n'est-ce pas?
2500
mais il a plus de pouces.
Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu vas payer à la réception et à l'envoi. Donc en fait, il en a reçu 1200 et il en a envoyé 1200. Bon, c'est déjà pas mal quand même.
La réception est payante?
Ouais, la réception est payante.
Aux États-Unis, oui.
Et donc, tu vas payer genre 10 cents du message. Et donc, quand tu vois ce type de consommation et tu lui dis, mais pourquoi tu t'envoies pas des emails? Parce que les emails, c'est rapide, c'est aussi gratuit. Et il dit, non, mais c'est pas instantané. Et donc, pour leur génération.
Oui, ils s'en servent comme chat, quoi.
Voilà, ouais. C'est du chat. Et donc.
C'est là où le push peut tout changer.
C'est là où tu as des services de SMS gratuits qui vont... Enfin, ça va pas du SMS, ça va être de la notification. Des services comme Notifo, par exemple, N-O-T-I-F-O, qui n'est pas un de mes investissements. Je plug aussi les boîtes que j'entends de temps en temps.
C'est assez rare pour le signaler que
c'est assez rare, n'es pas exactement. Investi dans cette boîte. Et donc, pour moi, la question, c'est quelle va être l'offre commerciale. C'est pas uniquement le téléphone, ça va être... Quels vont être les abonnements? Est-ce que va y avoir du text messaging dedans? Est-ce que ça va être du multimédia, etc.? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Verizon, qui est l'opérateur qui va avoir ce téléphone en premier, sont connus pour te faire payer très cher pour tes MMS, pour envoyer du truc, envoyer du machin, etc. Donc pour moi, c'est ça la question. Mais il ne faut pas oublier une chose, hein, c'est que Microsoft, ils sont super têtus. Et donc, si ça leur met 10 ans pour sortir un téléphone qui va être digne de ce nom, ils le feront. Hein, on l'a vu avec Xbox.
Ouais. Ok, bon bah en tout cas, je sais même pas s'il sera disponible en France, ce téléphone. Donc, on parle vraiment des efforts de Microsoft aux États-Unis, là. On verra bien. Bah écoutez, c'est la fin de nos histoires vraiment importantes. Là, on va passer aux news et rumeurs, aux news et aux rumeurs plus rapides, avec ce petit jingle.
Qui arrive. Ou pas.
Il n'arrive pas.
Ah.
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Voilà. Alors, les news et les rumeurs, très rapides. Une, peut-être la moins rapide de toutes, Twitter a racheté Tweety. Alors, c'est quoi Tweety pour les fans de...
Tweety.
Les fans de Tweety, de
c'est
Twitter,
le logiciel qui m'a fait aimer Twitter.
C'est voilà. Vrai?
Ouais. J'avais testé Twitter en version web à l'époque où tu étais le seul à en parler. J'avais absolument pas accroché à l'interface. J'adhère toujours pas à l'interface qui est quasiment la même. Mais Tweety m'a fait aimer Twitter.
Alors pour ceux qui savent pas, si vous n'êtes pas encore sur Twitter, vous pouvez utiliser Twitter sur la page web. Mais le moyen le plus simple, c'est d'utiliser Twitter avec des applications tierces qui se lancent comme des applications individuelles sur votre ordinateur ou sur votre iPhone. Personnellement, l'application que j'utilise sur l'iPhone, effectivement, c'est Tweety et je la trouve très bien faite. Mais je précise que je pense que la seule raison pour laquelle j'utilise Tweety sur iPhone, c'est que Sismic n'est pas encore sorti sur iPhone, parce que sur mon bureau, j'utilise Sismic Desktop et il est très très bien.
Le jour où tu pourras utiliser Tweety sur ton Mac, tu verras que tu ne diras peut-être pas la même
chose. On verra peut-être, non, mais en tout cas, moi je suis... Sismic, en plus c'est Loïc qui nous a déjà fait l'amitié de venir sur... sur l'émission.
En plus, Sismic n'est pas disponible. Enfin, il y a une version en flash qui est disponible sous Mac, mais comme on l'a très bien dit avant, elle est très lente.
Et ben moi, je l'aime beaucoup sur PC et je l'utilise tous les jours intensément. Mais alors justement, la controverse que ça a soulevé, c'est que Twitter s'est vraiment développé grâce au travail des développeurs tiers qui faisaient des applications pour utiliser Twitter en dehors du site web en lui-même. Et certains l'ont senti un petit peu comme une trahison, parce que maintenant que Tweety a été racheté par Twitter, Twitter va le rendre gratuit et le renommer Twitter pour iPhone, et également continuer à le sortir en version Mac. Et les gens se disent, du coup, on ne va plus, les utilisateurs ne vont plus se diriger vers nos applications à nous. Ils vont tous aller vers l'application officielle. Donc, on peut comprendre un petit peu. Moi, je dirais, c'était un peu naïf de se dire que Twitter n'allait pas créer une application officielle. Ce qu'il disait très, très justement, c'est que quand quelqu'un allait sur l'App Store d'Apple, il tapait Twitter et il trouvait plein d'applications avec des noms bizarres. Il ne savait pas trop ce que c'était, à quoi ça correspondait. Donc, il leur fallait un truc un petit peu plus propre. Et on craint qu'ils se mettent à acheter de plus en plus de ces compétiteurs, enfin, de ces développeurs tiers qui proposent des services pour Twitter, et que les gens qui ont développé des business models autour de ça se retrouvent dans une position difficile. Ouais, moi, ça, je dirais,
c'est à prendre en compte quand tu fais ton business plan, mais c'est clair que l'accès à Twitter se fait à 70 ou 80% par les applications tierces, qui elles-mêmes se font du beurre en affichant leur propre pub, comme par exemple dans Tweety avant qu'ils se fassent racheter. C'est clair qu'à un certain moment, quand Twitter doit dégager des ronds, qu'ils vont forcément essayer de reprendre possession de ce qu'ils ont créé.
Ouais, bah c'est sûr d'une part, mais moi je dirais pour les développeurs tiers, c'est normal qu'ils s'inquiètent. On va peut-être poser la question à Jeff, puisque, enfin, je sais pas si t'as parlé à Loïc depuis l'annonce, mais
tu m'étonnes.
Le truc, c'est que effectivement c'est un petit peu inquiétant, mais d'un autre côté, il y a plein d'exemples où on a une application officielle pour quelque chose et d'autres applications qui font les choses mieux ou qui donnent des services en plus que les gens vont quand même utiliser. Donc moi je pense que c'est une opportunité de s'améliorer plutôt que de se lamenter en se disant ça va plus marcher.
Je pense qu'il faut voir les choses dans un contexte un petit peu plus large. Donc la semaine dernière, Fred Wilson, qui est un des investisseurs et board member membre du directoire de Twitter, a fait un post sur son blog disant « Développeurs d'applications Twitter, arrêtez de simplement boucher les trous et innover un petit peu, parce que là, c'est un peu n'importe quoi. » Et donc, le monde du développement Twitter, qui à ce jour, comme vous le disiez, est en grande partie soit des clients sur les différentes plateformes, soit des outils qui vont compléter Twitter, parce que Twitter, à la base, c'est très basique, quoi. Donc, ouais. Va y avoir des répertoires, va y avoir des répertoires d'outils, va y avoir l'équivalent d'un Twitter Store, va y avoir des choses qui permettent en fait aux gens de découvrir Twitter et comment faire en gros mon premier post sur Twitter. Et en gros, ce que disait Fred Wilson, c'est bon, bah tout ça en fait c'est du petit bouche-trou à la, je veux pas dire à la petite quéquette, mais enfin c'est un peu ce que je pense.
Donc, je le dis, ça c'est très français, tu vois, ça pour ceux qui se plaignaient.
et donc le problème que ça a créé, c'était mais attends, qu'est-ce qu'il nous dit, pourquoi il va raconter ça, sachant que la semaine prochaine, enfin non, cette semaine en fait, il y a la grande conférence développeur Twitter Chirp à San Francisco, et tout le monde a commencé à s'inquiéter. Et en gros, le rachat de Tweety, c'est pas tant le fait de dire bah voilà, on reprend un des clients, et il faut savoir que c'est pas le plus gros client sur l'iPhone, hein, le plus gros c'était Ecophone. On reprend un client à notre propre compte, on fait un partenariat avec RIM pour annoncer le client officiel BlackBerry, et en gros, la façon dont la communauté ressent le truc, c'est que là où Twitter s'est développé grâce à l'activité de tous les développeurs, en gros, ils sont en train de se retourner contre eux et puis de se servir de tous ces mecs qui ont passé quand même beaucoup de temps et d'argent à développer des applications phares. Ils s'en servent comme paillasson, quoi. Et donc
tu es aussi dur que ça pour l'analyse de cette
Bah, je suis dur au sens où gérer ta communauté, c'est la première chose que tu apprends quand tu es une plateforme. D'accord. Donc, soit t'es un applicatif et bah, tu as des utilisateurs et puis voilà. Soit t'essaies d'être une plateforme et t'essaies de marcher sur ce fil d'équilibre, si tu veux, où tu vas dire bah voilà, ça c'est moi qui le fais et ça je le laisse à ma communauté. Et c'est quelque chose que tu vois Facebook a relativement bien fait. C'est-à-dire qu'il y a eu un certain nombre de petits soucis dans la croissance de la plateforme Facebook, mais grosso modo, il n'y a pas eu d'énormes situations comme aujourd'hui où en gros les mecs parler de faire un boycott de Chirp. Ils vont se réunir tous mardi et il y a un mec de Twitter qui a été invité pour aller parler aux développeurs. Bah, je peux te dire que le mec, il va se faire lyncher. Hein.
Mais tu penses pas qu'ils n'avaient pas le choix chez Twitter ? Ils n'étaient pas obligés un petit peu de sortir leurs propres clients ?
Bah, si tu veux, quand ils ont annoncé initialement les API, donc l'ensemble des outils de développement de Twitter, ils ont toujours dit, nous on fait notre site web, nous on fait ceci, ça ne nous intéresse pas d'avoir un client sur toutes les plateformes, ça permet aux développeurs de développer des applications intéressantes, etc., etc. Donc en gros, ils sont venus un petit peu sur leur position. Le problème, c'est pas tant qu'ils le fassent, si tu me poses la question, il y a des choses qui sont tout à fait logiques, être responsable et propriétaire de l'engagement utilisateur, ça a du sens. Si tu veux en fait pousser un business model basé sur de la pub, qui est le cas de Twitter, ils ont besoin en fait de cet engagement. Ce que je dis qu'ils ont mal géré, c'est la transition et ils s'y sont pris comme des brêles, c'est tout. Alors peut-être qu'un jour ils grandiront et qu'ils comprendront comment gérer une communauté, mais en tout cas je peux te dire que là ils ont, et en plus le pire c'est qu'ils comprennent pas, c'est à dire que les mecs ils disent mais on comprend pas, c'est quoi le problème, on vous aime, ils ont pas vu le truc venir, quoi.
D'accord. Bon.
Et oui, j'ai passé des heures au téléphone avec Loïc.
D'accord. Et lui il est pas content.
Si tu veux, le problème pour lui c'est comment, enfin c'est pas tant tiens, il rachète Tweety, c'est un problème, parce que comme tu le disais très justement, il n'avait pas encore sorti son client sur iPhone, donc c'est pas forcément un problème. Mais dans sa position très proche, en fait, en tant que Sysmic, c'est un ensemble de clients sur différentes plateformes, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Sysmic va se faire bouffer sur l'ensemble des plateformes les unes après les autres. Qu'est-ce que ça veut dire pour sa stratégie ? Et c'est pas négligeable, quoi. Donc, et aujourd'hui, là, le plus gros problème, si tu veux, c'est pas tant qu'ils aient pris cette décision, c'est qu'il y a un flou complet autour de la stratégie et la communication, ou le manque de communication qu'il y a eu avec les développeurs. C'est-à-dire que Loïc avait passé du temps avec le CEO de Twitter il y a même pas 4-5 jours, et le mec en a pas pipé un mot, quoi.
Ouais.
Alors que bon, Sysmic, c'est quand même un énorme client par rapport au monde des interfaces, quoi. Donc bon, on verra bien.
Ok. Le reste des petites news rapidement, Palm, comme on le disait, ne va pas très bien et ils sont en vente. Donc on en parlait déjà il y a quelques temps, ça y est, c'est arrivé, ils sont en vente. Bon, c'est pas si surprenant, mais c'est un petit peu tristoun.
C'est dommage.
Ouais. Le P2P est en baisse suite au vote de la loi Hadopi. Le P2P a baissé, donc le trafic de pirates a baissé. Donc tout va bien.
C'est moi.
Tout va bien, Hadopi a fonctionné, les gens ne piratent plus. Eh ben non, parce que le P2P est en train d'être remplacé par des trucs comme le direct download et donc le download direct et le VPN, les réseaux privatifs, qui sont totalement intraquables par Hadopi. Ce qui veut dire qu'on va se retrouver encore une fois avec une structure qui coûte très cher et qui
ne
n'a
sert à rien.
Aucun effet. Super, merci. Dernière chose, l'Angleterre est en train de suivre les pas de la France, enfin des pays qui sont un petit peu restrictifs, voire parano sur le web, avec le Digital Economy Bill en Angleterre, qui permet à l'État de faire certaines choses un petit peu inquiétantes, comme par exemple le fait de bloquer un endroit sur Internet qui porterait atteinte au copyright, qui soit en rapport avec une atteinte au copyright ou qui ait la possibilité d'atteindre au copyright. Donc c'est une loi super large qui pourrait faire fermer n'importe quel site à n'importe quel moment pour n'importe quelle raison, en gros. Bon, ouais, peut-être pas n'importe quel site, mais il est tout à fait possible de dire « Ah ben, YouTube autorise les atteintes au copyright en mettant des vidéos en ligne, il faut fermer YouTube. »
Déjà, quand t'entends bloquer Internet, tu te dis c'est un pote à Murdoch.
Ouais, voilà. Les mecs, ils comprennent pas bien. Bloquer un endroit sur l'Internet.
Ouais. Okay. Sur l'Internet.
D'accord. Bon, et voilà pour nos petites nouvelles. On va passer immédiatement et sans autre transition à la statosphère de Guillaume.
Bonjour à tous. Imaginons que le monde entier soit un village global d'une centaine d'habitants. C'est ce qu'un graphiste anglais a entrepris de représenter sous la forme d'illustrations particulièrement explicites. Le village serait alors composé de 48 hommes et 52 femmes, 70 adultes et 30 enfants. 76 habitants de ce village auraient l'électricité et seuls 7 d'entre eux seraient équipés d'un ordinateur. 61 résideraient en Asie, dont 17 qui parleraient une langue chinoise. Par ailleurs, il serait une petite dizaine à parler anglais. Tout ceci permet bien sûr de mettre notre petit monde en perspective, et en particulier ses inégalités. Pour plus de commodité, imaginons désormais que ce village mondial compte 1000 habitants. On dénombrerait alors 5 soldats, 7 professeurs et seulement un médecin. Il serait 70 à disposer d'au moins une voiture. Les 200 habitants les plus riches de ce village se partageraient 75% des revenus, contre 2% pour les 200 habitants les moins riches. Enfin, au rythme de la démographie mondiale, ce village de 1000 habitants en compterait 1018 l'année suivante. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr. À bientôt.
Merci à Guillaume. Et comme toujours, vous pouvez retrouver toutes ces statistiques plutôt intéressantes sur son site, comme il le dit, statosphere.fr. Et effectivement, ça, c'est une manière plutôt marrante de regarder ce qui n'est finalement que des pourcentages assez simples, quoi. Mais c'est une représentation intéressante. Bon, bah écoutez, on arrive à la fin de l'émission. Je vais vous proposer, comme toujours, de passer sur le site pour nous laisser des commentaires, si vous voulez discuter un petit peu, sur lrdv.fr. Vous pouvez également nous laisser des commentaires sur iTunes. Ça serait véritablement apprécié parce que ça nous aide pas mal pour gagner en visibilité, comme vous le savez. Vous allez sur iTunes, vous cherchez le Rendez-vous Tech et puis vous laissez une petite review avec une petite note. Pour le moment, tiens, j'ai pas regardé à combien on en est. Le Rendez-vous Tech, je fais ça en direct, c'est très très pro. Le Rendez-vous Tech, hop, iTunes, on en est à 618 avis. Bon, c'est bien, merci à tous.
C'est très bien même.
Oui, mais Geeking, ils en ont beaucoup plus.
Oh, fais pas trop jaloux.
Oui, un petit peu.
Dis-toi que j'en ai beaucoup moins.
Mais oui, mais ça me rend triste pour toi. Ça me rend pas joyeux pour moi. Tu vois, je ne jouis pas du malheur des autres.
Oh là là.
Bon, voilà. En tout cas, merci à ceux qui nous laissent des notes et des reviews.
Si je peux faire un site fantastique.
Bon, vas-y, rapido. Je voulais speeder, mais...
C'est allez tous sur abandonware-magazine au pluriel.org et vous retrouverez des dizaines et des dizaines d'anciens magazines informatiques ou jeux vidéo, que ce soit Joystick, Avomac, Amiga Mag, scanné, que vous pouvez télécharger gratuitement. Et c'est génial. C'est tout.
T'as toujours les meilleurs sites fantastiques. Donc
des vieux magazines des années 90 ou même des années 80, tu peux les télécharger, les lire et te rappeler plein de souvenirs.
Sympa, je vais mettre le lien dans la chatroom immédiatement, voilà. Bah écoute, merci beaucoup, on ira voir ça va être très sympa également. Et puis, si vous avez encore soif de choses sur Internet, vous savez ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez aller sur les sites de Mathieu, comme par exemple
MathieuBlanco.fr, 2TH. Vous retrouvez tous les podcasts, les explications de comment c'est fait, le contact, là où j'apparais, tout.
Super, merci Mathieu. Jeff, où les gens vont-ils sur l'internet du cybernaute pour te retrouver ?
Jeff.clavier@gmail.com sur Buzz.
D'accord.
Parce qu'on va tous boycotter Twitter. Non.
Sur Ramdam.
Jeff, Twitter.com. Donc Twitter.com/Jeff.
Ok. Et pour moi...
Et toi, Patrick ?
Il y a deux endroits. Bah en fait, je vais en dire qu'un seul, patrickbeja.com. Et de là, vous pouvez retrouver absolument tout, tous les liens sur tous les réseaux sociaux de toute la Terre. Donc patrickbeja.com, Twitter, Facebook et tout ça. C'est super simple. Et vous savez ce que vous pouvez retrouver aussi si vous n'en avez pas assez d'entendre des gens dans votre iPod et votre ordinateur, vous pouvez aller sur nowatch.fm. Et sur nowatch.fm, il y a toutes sortes de podcasts absolument fantastiques comme Season 1, Techno IT, Azeroth.fr, etc., etc. et en particulier Upload, puisqu'on a beaucoup parlé d'Apple. S'il y en a qui veulent plus de détails sur l'iPad, encore plus que ce qu'on a dit, comme je le disais, l'épisode précédent était un spécial iPad avec Jeff qui nous parle en grand détail de son utilisation et de son expérience avec l'iPad. Et petite info, on risque avec Jérôme de faire une sorte de voyage vers l'Apple Store du Louvre pour les Parisiens au moment de la sortie de l'iPad. On risque d'y aller pour rencontrer des auditeurs et faire une sorte de petite fête là-bas au moment de la queue. Donc quand je me suis marré, quand j'entendais que tous les gens faisaient la queue pour attendre des choses à l'Apple Store, et ben, vous pouvez vous foutre de ma gueule maintenant parce que je vais peut-être faire pareil.
Donc voilà. Donc tu confirmes que tu vas en acheter un.
Oh non, je vais peut-être y aller simplement pour voir comment ça se passe.
Je vais juste aérer mon chéquier.
Parce que tu sais, j'ai plein de copains en fait qui ont dit jusqu'à la veille, non mais j'en achèterai pas, non mais c'est des conneries, non mais ça sert à rien. Et ils ont craqué dans les deux premières heures, à voir en fait le flux de tweets de gens qui se pâmaient d'avoir leurs iPads. En gros, ils ont lâché. Et j'ai même d'autres copains qui avaient commandé un iPad 3G qui ont craqué et qui ont acheté un iPad pour dire « Allez, je le filerai à ma copine. »
Ouais, mais non, moi, ça va aller, je vais pas craquer, je vais pas en acheter un, c'est bon.
Aère-toi le chéquier.
Peut-être. Non, je sais pas.
Un MacBook et un iPad.
Je sais pas si je vais en acheter un ou pas. Je dis pas que je vais en acheter un ou pas. Je sais pas encore. Je suis pas sûr. Voilà. Allez, on vous laisse. On vous donne rendez-vous dans 15 jours. Ça sera le 26 avril pour un autre épisode absolument fascinant. Merci à tous d'avoir été là et à dans 15 jours. Ciao, ciao. Merci
à toi. À bientôt à tous.
Ciao.
Softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.